En 2011, Nicolas Cage nous montrera qu'il est capable de monter des fantômes une fois de plus. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence.
Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme toujours accompagné par Julien Asuncao. Salut Julien.
Salut Alexis.
Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Julien ?
Je te sens tout excité là. On va parler, on en a, pour ceux qui suivent, on a donc parlé de Ghost Rider 1 il y a un petit paquet d'épisodes. Je pensais pas qu'il y avait autant d'écart entre les deux. Mais il faut dire que, un an en Nicolas Cage, ça fait 10 films, donc forcément ça fait quelques podcasts d'écart. Mais du coup, on va parler de Ghost Rider 2. Donc Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance. Tout un programme.
Alors avant, il cherchait la justice, puis là, il cherche la vengeance. Ouais. Voilà.
Après, sa définition de la justice est très proche de la vengeance, de toute façon, donc ça tombe plutôt bien. Donc film américain de 2012, on quitte enfin l'année 2011, réalisé
ça c'est pas, alors c'est parce que tu regardes la sortie française dans ce cas-là, parce que moi je suis toujours peut-être. En 2011.
Mais vu qu'on a un podcast français, écoute.
Ah non, mais même, tu vois, c'est parce qu'il est sorti... Alors, ok, il est sorti le 11 décembre 2011, mais par contre, aux États-Unis, il est sorti en février 17 2012. Ils ont fait une double sortie.
Ah, ils ont fait l'inverse. Ouais. C'est le monde qui est sorti avant, un peu comme tous les films Marvel maintenant, là.
Ouais.
Ok.
Écoute...
Précurseur, je sais pas s'il y avait besoin pour celui-là, mais ok.
Dans ce cas, sort de 2011, finalement, on fait le bridge, on fait le
voilà,
pont.
Voilà, 2011-2012, c'est entre les deux, là, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais donc, réalisé, ça, je pense qu'on va en reparler un petit peu après, donc par Mark Neveldine et Brian Taylor, avec Ciaran Hinds, Violante Placido, Idris Elba, Christophe Lambert, bien sûr.
Et Christophe Lambert,
Cage dans les rôles principaux. Déjà, avant de parler du CM6, on peut peut-être parler justement des réalisateurs. Je pense que c'est ça qui entre guillemets excitait un peu les gens, ou en tout cas ce qui faisait que ce numéro 2 était censé être comme assez différent du 1. Il était dans un contexte assez différent parce que ce sont les réalisateurs de Hypertension 1 et 2, film
exceptionnel,
je sais pas le terme.
Hypertension 1, le 2 oui. Moyen, mais le 1, c'est un film de sensation, 2, oui. C'est un film à voir une fois dans sa vie, je pense.
Mais en tout cas, film de gamin, mais tu sais, dans le côté positif du terme, de mauvais gamin, quoi.
Irrévérencieux au possible.
Voilà, c'est ça.
Fait pour ça, fait par deux gars qui ont décidé qu'ils en avaient rien à faire. Du temps qu'ils avaient, comment il s'appelle
Jason Statham.
Notre ami Jason Statham qui était dans le film et qui se fait mes plaisirs comme pas possible. Et c'est vrai que quand ils ont annoncé que ils allaient faire un Ghost Rider 2 avec Nick Cage et dirigé, produit et plus ou moins, c'est écrit par David S. Goyer qui est genre quand même connu dans le monde du film de super-héros. Mais produit par Neveldine et Taylor, tu te dis que Nick Cage il va pouvoir se lâcher, tu te dis que Marvel ils ont un peu pété un câble, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ces gars-là faire un film avec leur IP, parce que oui ils se sont fait vraiment plaisir avec ça, et tu sens que tout le monde va pouvoir se lâcher un peu quoi, donc ça fait plaisir et ça va plutôt bien avec le personnage du Ghost Rider quoi.
Ouais, pour ceux qui connaissent pas forcément Hypertension, donc en dehors de dire que c'est un film un peu irrévérencieux, c'est un film d'action, on va dire, où le concept c'est vraiment d'enchaîner des scènes, d'avoir toujours de l'action, jamais de moment de pause. très clipesque, on va dire. C'était un
ouais,
peu la,
ouais, vraiment,
bah,
ouais.
C'est la grande période aussi. Il y a pas mal de réalisateurs comme ça qui essaient d'amener de cette patte-là et d'accélérer un peu le rythme. Et donc eux, ils essaient de pousser le truc à fond à ce niveau-là. Puis bon, bah, avec un humour plus ou moins de bon goût, mais voilà. Et au moins, normalement, on est censé pas trop s'ennuyer. Et donc, pour parler du pitch, donc ça se passe 8 ans après les événements du premier. Donc, on a Johnny Blaze qui se trimballe maintenant en Europe. Et bah, là, il est assez... Alors là, je vous sors la phrase et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, il est recruté par des moines pour lutter contre le diable qui veut bah, s'emparer du corps de son fils mortel le jour de l'anniversaire de son fils. Voilà. Donc ça fait rêver. Encore plus si on vous dit que Christophe Lambert fait partie des moines.
Oh ouais. Oh mais qu'est-ce que je... pour les gens qui seraient... Juste avant qu'on parte trop loin, pour les gens qui seraient vraiment très confus à pourquoi est-ce que Marvel aurait laissé des gens faire ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas laissé des gens faire ça. C'est juste, c'était encore à la grande époque de... Ils n'avaient pas les droits sur leurs films, là. Donc c'était Columbia Pictures et eux ils sont juste partis n'importe où.
Après ils pourraient très bien le refaire maintenant hein, parce que
pas au, maintenant, pas, ils au sont début un peu plus
pas au début de Marvel mais maintenant voilà maintenant qu'ils ont compris ouais. qu'un film un film qui est rated R donc enfin qui est
comme Deadpool,
qui est interdit
ouais,
au moins de 16 c'est ça enfin l'équivalent
c'est 18 bah c'est 16 18 ouais
ouais mais bon en France c'est pas 18 en tout cas.
Non, en France, ce serait plutôt ouais, moins de 16. Ouais.
Et que ça fait vendre, quoi. Après, moi, pour être honnête, je me suis rendu compte, en essayant de réfléchir un peu à ce que je l'ai déjà vu, hein. On l'a vu tous les deux, je pense. Enfin, c'est
ah oui, 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 bien sûr. Ouais.
Je me suis rendu compte que je n'ai aucun souvenir de ce film. Aucun, à part un. Mais ça compte.
Je pense qu'on a la même scène, mec.
Oui,
je pense qu'on se rappelle tous les deux de la même scène.
Mais oui. On va pas le spoiler, ce sera rien, enfin, c'est pas un truc important. Mais genre...
par contre, je me souviens de Christophe Lambert.
Et moi, je me souviens de rien. et je pense que, alors, ça m'intéresse de le revoir, mais le côté, ça va être marrant parce que c'est les réalisateurs de Hypertension, j'ai l'impression qu'il y a risque d'être très déçu. Si je me rappelle de rien... ça doit pas être pour rien quoi. Alors je me souviens qu'à l'époque j'avais pas détesté mon visionnage, je m'étais amusé voilà. Mais déjà c'était il y a un petit moment, j'étais ouais. jeune et con. mais surtout bon voilà, en tout cas ça a pas passé l'épreuve du temps quoi.
Ben non, puis je suis assez d'accord avec toi. C'est pas personnellement pareil. Je l'ai vu quand il est sorti en 2011, donc voilà. Puis le problème avec Neville Dean était là. Neville Dean était là. Je sais pas. On galérait avec Guy Pearce l'épisode précédent. Bah là, tu vois, je galère avec Neville Dean.
Ça sera toujours comme ça.
C'est que si je suis vraiment honnête avec toi, mis à part Crank 1, Hypertension, qualitativement, leur réalisation elle est quand même de moins en moins bonne à chaque film. Enfin, tu sais, je veux dire, Hypertension 2.
Bah, déjà, ils en ont
même si c'est pas un mauvais film, pas incroyable. Gamer avec
alors Gamer,
avec
moi j'ai
Dexter un... et comment il s'appelle
Butler.
Butler.
Moi j'adore
Gérard
ce
Butler.
Film. Enfin, il me fait mourir de rire. Mais c'est
oui,
nul.
Mais il est pas bon quoi. Enfin, la réalisation elle est pas bonne. Puis bon, en plus c'est un film dégueulasse qui est genre qui est malhonnête.
En fait, c'est là où il passe la ligne de on s'auto-parodie.
Ouais. Mais après deux films, quoi.
Mais on n'a pas de... Il n'y a pas de... D'arrière... on n'a pas de second degré, en fait, sur ce qu'on fait.
Non.
Limite, c'est... Enfin, et c'est vrai. Moi, il me fait rire parce que... Il y a des scènes qui sont vraiment improbables. Et je pense qu'il y a quand même un... Enfin, ils font des scènes ridicules en faisant exprès, quoi. Enfin, ils font pas... C'est pas sans faire exprès, non plus. Mais il y a aussi plein de moments qui sont lourds et sans être drôles et du coup juste ratés. Quoi. Donc effectivement, on va dire qu'ils n'ont pas trop enchaîné après la réussite de leur premier film.
C'est ça, et ça me fait un peu peur pour... Ben, mais il me semble que j'avais quand même apprécié Ghost Rider 2, tu sais, mais je pense que c'est le genre de film que tu oublies genre, rapidement, là, ce qui veut dire que... Quand il va falloir que je le regarde, va littéralement falloir que je le regarde un jour avant qu'on enregistre parce que sinon je vais l'oublier, je pense. voilà, ça, je vais être honnête avec toi, ça me fait plus peur pour, parce que Nick Cage a tourné un autre film avec eux, qui s'appelle Mom and Dad, je crois, qui est dans les années 2019. Voilà. Donc, je pense que je vais avoir un peu plus peur pour ce film-là quand on va y arriver que celui-là.
Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc...
Ah bon, bah alors...
Pas forcément du grand public, mais plus de la sphère, justement, des podcasts de Nicolas Cage.
Ok, d'accord.
Non, mais des gens qui suivent la carrière de Nicolas Cage, je sais pas, j'en avais entendu du bien.
Mais on est rentré là-dedans maintenant, on prend nos...
Mais c'est un film qui est réalisé que par Brian Taylor, il me semble.
Ah, ok. Moi, mais il est au scénario aussi, par contre. Neville Dean est genre scénarisé par eux. Bah, il est... Bon, bref. Étonnant.
Mais
il y a ça aussi, voilà. Hein, quand il y a deux personnes, mis à part Joel et Ethan Coen, là, en général, quand il y a deux réalisateurs, ça se tire un peu dans les pattes. Mais bon, bref.
Ouais, je sais pas, il y a quand même pas mal d'exemples. Mais...
De bons exemples.
Bah oui, Matrix.
Ouais.
Non, mais en plus, il y en a d'autres, là, je sais pas forcément. Mais je sais que c'est un truc.
Le premier, par contre, c'est un peu ce que je dis, quoi. Enfin, oui, les autres films.
Voilà, moi vu que j'ai aucun souvenir, je vais le revoir de zéro. Et ça va. Mais je vais me poser la question, justement, en le revoyant, voilà, pourquoi j'en ai rien gardé. Essayer de trouver les explications et voir si ça ressort tout de suite du visionnage ou s'il y a besoin de chercher un peu plus loin. Mais ça m'intrigue, ça.
Ouais, bah, je pense que ça va quand même être avec un certain plaisir, quoi. Donc. Moi, je vais avoir un certain plaisir. Ben, je vais avoir un plaisir à commencer à le regarder. Est-ce que ce sera un certain plaisir jusqu'à le terminer ? Pas sûr, mais...
Normalement, on devrait quand même pas s'ennuyer.
Non, je pense pas. Ne serait-ce que parce que je pense qu'ils ont vraiment laissé beaucoup d'espace à Nick Cage pour faire ce qu'il voulait. Donc, je pense qu'au moins ça, André...
On aura de la matière, ouais. Au moins.
Voilà.
Bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire.
Je pense qu'on
s'attaque au visionnage.
Allez, c'est parti. À tout de suite, tout le monde.
John,
you talk to Kerrigan. I talked to a lot of people. Hey, I got what you need for those shakes, my friend. Kerrigan must have told me about that thing that killed his men last night, huh?
Yeah.
That thing is inside of me. See, you're a bad man, and this thing, the Rider, he feeds on them, and he's hungry.
Et on est de retour après avoir vu Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance.
Ça y est, on l'attendait pas mal quand même ce film. je sais plus ce que j'avais dit en intro, peut-être que j'avais dit que j'étais un peu inquiet. Ou que je me rappelais plus, enfin, non, je me rappelle, j'avais dit que je me rappelais plus du tout du film. Et je confirme après l'avoir revu que franchement c'était comme si je l'avais vu pour la première fois pratiquement. À part quelques scènes...
Il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées, ouais.
Mais j'étais bien content, moi. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas très bien vu comme film. Je peux comprendre pourquoi, parce que le style des réalisateurs fait que c'est un film qui ne se prend pas trop au sérieux et tout. Donc forcément, déjà, tu as une partie de... des fans qui vont pas adhérer, ça empêche pas que ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un bon divertissement et j'ai l'impression que ça lui était même pas accordé. Souvent dans les critiques que je voyais passer, donc dis pas que c'est génial, hein, attention. Mais
moi, je le dis. Mais
du coup, je m'attendais à pire que ça. Et je me tenais à moins bien. Et ouais, je le trouve clairement. Enfin, il m'est plus sympathique que le premier.
Déjà vraiment beaucoup plus. Il y a vraiment un accent sur le côté que le Ghost Rider est un monstre que je trouve absolument incroyable. Il y a des moments où tu as l'impression de regarder un film d'horreur de série B. Alors par contre, tout le film ressemble à un film de série B, mais je trouve ça incroyable.
Après,
pour moi, il n'y a rien de plus...
Le premier ressemblait à un film de série Z, donc...
Ouais, mais tu sais,
il y a des effets.
Ouais, mais la cinématographie du premier ressemblait quand même à un blockbuster.
Ah,
même si, avec les effets spéciaux et tout, il était dégueulasse.
Ouais, je suis pas d'accord. Enfin,
celui-là,
pas...
les. La, la lumière, les mouvements de caméra, ça ressemble un peu à de la série B dégueulasse, ah ouais, mais c'est incroyable.
Bah, je trouve que c'est bien plus propre.
Pour moi, voir Idris Elba dans un film de série B, je trouve ça génial.
Ouais, moi je trouve ça bien plus propre, parce que tu sais, le premier, il avait un côté sur la lumière où c'était un peu son, un peu cracra.
Oui, bah
et là, en fait, là où, je parle pas des scènes où il y a des effets et tout, hein. Je te parle, en fait, il y a certaines scènes où on filme juste un paysage, un peu désertique ou je sais pas quoi, et là, je trouve que le grain de l'image est pas mal, il est pas moche, et ça fait quelques plans qui sont jolis. Et je trouve que le premier, il avait pas ça. Qu'il est, il non, mais... cheap tout du long. Bah, on avait parlé beaucoup de la lumière. Hein.
Oui. Je suis d'accord avec toi que les paysages et les trucs comme ça sont généralement plutôt bien foutus, mais par contre, c'est les dialogues et les trucs comme ça, surtout avec la caméra qui fait bouger, t'as l'impression de regarder un film un mauvais film de John Romero.
Mais là,
ce qui n'est pas une bonne chose.
C'est le style.
Je suis d'accord.
Je comprends qu'on peut ne pas accrocher, mais c'est clairement du second degré, quoi.
Mais quand je dis que je vois un film de série B, c'est pas une critique.
Oui.
C'est juste que ça a les codes de la série B. Mais moi, je trouve génial ce film.
Je croyais que tu parlais visuellement, et justement, vu que je le trouvais plus propre. Voilà. Mais par contre, oui, sur le reste, je suis d'accord.
Puis, gros sourire du début à la fin de ce film. Tu vois, un truc qui me fascine, par contre, et c'est ce que j'avais peur. C'est parce que quand tu regardes la page Wikipédia et que les gens ils te disent le film a eu une mauvaise réception machin, et que les gens leur plus gros critique c'était bon le script, les effets spéciaux, et je suis genre j'avais vraiment peur des effets spéciaux, et en fait j'ai revu le truc, j'étais genre mais attends, mais il tient la route le truc quoi. Il tient la route, c'est pas les flammes elles ont de la gueule, enfin, il tient la route le machin quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens sont si malheureux à propos des effets spéciaux. C'est sûr, c'est pas Avenger, mais
après, faut séparer la qualité des effets spéciaux et le côté complètement kitsch de l'utilisation.
C'est ça. Mais... C'est oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Le film est camp as fuck, il est kitsch, mais il marche quoi.
Après, les effets spéciaux sont pas incroyables non plus. Enfin, genre le feu, non. Bon, voilà. Il y a certains moments un peu... En fait, il y a des moments qui marchent plus que d'autres. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a des moments où ils utilisent des effets réels et des fois où ils utilisent juste de la 3D et que... Du coup, ça... Il y a certains effets qui font vraiment numériques et d'autres qui font très réels. Enfin, tu sens la texture et tout. Et qu'il y a un écart entre les deux, mais après, en dehors de ça, ça m'a pas sorti du film, quoi, du tout, les effets spéciaux.
Ah non, absolument pas. Enfin, je les ai trouvés. Bon, j'avoue qu'il y a 2-3 moments là, surtout quand ça fasse.
Quand ils sont trop près.
Se change là. Ouais, tu sais, quand ils passent de l'un à l'autre, c'est un peu dégueulasse. Mais le reste est quand même super bien foutu. Enfin, moi, je sais pas, là, j'étais.
Ouais, moi, ça m'a pas dérangé. Mais oui. On attaque le résumé ?
Absolument.
Ça commence avec déjà ça m'a fait beaucoup rire, c'est que donc on a le personnage qui est joué par Idris Elba qui s'appelle Moreau, et donc Idris Elba il joue un français.
C'est magnifique.
Non, parce que Idris Elba il essaye même pas de faire un accent français du tout. Le seule chose qui le caractérise en français, c'est qu'à 3 moments dans le film il va dire bonjour.
Oui, il parle français. Ça... Bonjour, monsieur Blaise.
Mais c'est la seule chose. Après, tout de suite, il... Bon, allez, maintenant, j'ai l'accent anglais, quoi.
Moi, ce qui me faisait rire, c'est... Je l'ai regardé, et... c'est en anglais sous-titré, hein, normal. Mais moi, j'avais pas de sous-titres pour les parties en français. Parce que j'avais l'impression que le film assumait que j'allais comprendre ce qu'il disait, mais j'étais juste genre... Je capte que dalle. C'était vraiment drôle, pour le coup. Mais ouais.
Non, mais c'est.
Oui, on a Moreau.
Ça marche pas du tout, quoi. Ça me tue. Et il y a Christophe Lambert qui joue pas un français.
Ouais, non, c'est ça en plus. Putain, j'aurais dû l'inverser, je sais pas.
Ouais, on aurait eu Christophe Lambert un peu trop, quoi.
Par contre, j'étais content parce qu'au début, il y a le mec qui joue Giles dans Buffy, qui est là, qui joue un moine.
Ah.
Un moine qui fait genre. Le gars à qui Moreau parle est en mode. Oui, j'ai besoin de déplacer le gamin parce que sinon ça va mal se passer. Et t'as l'autre qui est genre. Non, on est bien protégé là, avant de se faire attaquer et de tous mourir.
5 secondes avant une catastrophe. Peut-être t'as les comptes Twitter ça, comme ouais. Ça, ou les mêmes.
Top 10 des mots.
Parce que quand il dit ça, et 5 secondes plus tard, t'entends des bruits de mitrailleuse. Et d'ailleurs, ce qui te remet un peu dans le contexte, c'est quand tu vois le début, t'as l'impression que ça se passe au Moyen-Âge, enfin, t'as une espèce d'ambiance un peu comme ça. Et d'un coup, t'as des bruits de mitraillettes, tu te tournes et tu vois que les mecs gardes, du monastère, ils ont aussi des mitraillettes. Tu fais, wow, d'accord, ok, c'est parti en couille très vite.
Puis c'est en Roumanie, hein, donc c'est en Europe. Europe de l'Est qui est super cool. Enfin, bref. Et voilà, en gros, on apprend que le diable, veut récupérer cet enfant qui s'appelle Danny. Et Moreau pense que la seule personne qui peut le protéger, bah, c'est le Rider. Malheureusement, la mère de Danny, qui est jouée par... j'ai déjà oublié.
Violante Placido.
Ne fait pas confiance à Moreau pour l'instant et pratiquement lui tire dessus en fait. Hein. Bon, il a rien, mais genre. Et elle s'enfuit avec Danny dans une voiture, je crois. et en gros, bon, bah, voilà, c'est la prémisse du film. Moreau a besoin de retrouver cet enfant pour l'empêcher, pour empêcher le diable d'utiliser cet enfant pour l'instant, on ne sait pas quoi. Et là, on coupe et on a le droit à une voix off incroyable de Nicolas Cage. Bah, on l'avait déjà au début, mais on a le droit à cette voix off formidable de Nick Cage qui nous explique plus ou moins ce qui s'est passé dans le premier film. Et au lieu de juste réutiliser les images du premier film, ils ont retourné une scène où ils ont pris un gamin, ils l'ont foutu dans un parking lot dégueulasse avec genre un contrat en papier devant lui où il est genre « Ah, j'ai signé un contrat avec le diable !» Et déjà, rien que là, on apprend que genre Johnny Cage... Johnny Blaze est genre super edgy parce qu'il est genre « Ouais... » Moi, j'étais un casse-cou, je faisais des backflips avec ma moto, c'est sur YouTube, allez le regarder, blablabla. Je suis trop cool, mais j'ai signé un pacte avec le diable pour qu'il sauve mon père. Et voilà, c'était ça Ghost Rider 1. Bah, ça, c'est juste le début de Ghost Rider 1. Qu'est-ce qui se passe après dans le film?
Oui, mais après, tu t'en fous du reste. Non, mais c'est. On s'en bat. Au moins, c'est un film. Alors, je sais pas combien de temps il arrive après le premier, mais donc pas si longtemps après. Bon, il aurait pu même carrément pas faire ça, mais bon, voilà, c'est fait rapidement. C'est dans une séquence animée, donc c'est sympa visuellement et tout. Et juste,
c'est plutôt cool, j'aime ça.
Juste pour le nom du gamin, là, Danny. Alors, je sais pas si c'est ça, mais je pense que ça doit être un clin d'œil en tout cas la troisième occurrence du Ghost Rider, parce que il y a différents personnages qui s'appelaient justement Danny, donc j'imagine que
c'est lui, hein. Danny Ketch, c'est exactement lui.
Bah, c'est pas du tout le même personnage dans
Non, c'est pas la même origine, voilà, mais par contre Danny Ketch, c'est le nom du troisième Ghost Rider.
Oui, c'est pas
juste Danny, c'est vraiment ce personnage-là est censé être le
troisième. Voilà, mais c'est pas du tout la même histoire, c'est pour ça que j'étais pas sûr, mais. Mais voilà.
D'ailleurs, je sais pas si je peux. Peut-être que je couperai ça, je le mettrai après, mais d'ailleurs, à la fin du film, quand le Ghost Rider devient bleu, c'est Danny Ketch, la version du Ghost Rider de Danny Ketch, est bleu. Donc c'est vraiment, c'est lié quoi, enfin, ils ont fait un mishmash de tout
bah,
ça.
Peut-être qu'ils voulaient faire un 3.
Tout à fait lié. Ils étaient censés faire un 3, mais le box-office a parlé, et Nick Cage a dit j'ai fini avec...
Pourtant il a rentabilisé, mais bon, pas suffisamment. Marvel, on sait qu'ils sont très exigeants là-dessus. Mais bref.
Probablement, hein.
Donc on en était où? Donc oui, il a raconté son histoire... qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle plus exactement au tout début comment il tombe. Bah, Moreau lui tombe dessus déjà.
Même pas. C'est-à-dire que genre il se réveille dans son Johnny Blaze se réveille dans son espèce d'appartement tout pourri où il est en Roumanie. C'est même pas un appartement. Il est en train de squatter, je sais pas où là. Et clairement, il va pas bien parce que la caméra elle bouge partout et s'est zoomée sur sa face. Et là, on entend, bah, il y a juste Idriss Elba qui frappe à la porte et qui rentre, genre, il l'a retrouvé.
C'est ça.
Et il est genre, bonjour, monsieur Blaise. Et t'as l'autre, il est genre, qui tu es, machin. Et en gros, ils ont une discussion sur le fait que, c'est pas une coïncidence que tu sois en Roumanie, aussi loin des États-Unis, à essayer d'échapper le Ghost Rider, aussi loin de ton pays de naissance, machin, que la raison pour laquelle t'es là, c'est parce que tu veux retrouver cet enfant, et parce que cet enfant, il est lié à Roach, qui est le diable avec qui il a fait son pacte, en gros. Et alors, Moreau demande à...
Mais du coup, c'est le même personnage que dans le 1.
C'est le même personnage que dans le 1, mais c'est pas le même acteur.
Voilà. Parce que c'est vraiment pas le même acteur, quoi.
Ils ont changé. Mais d'ailleurs, l'acteur voulait revenir pour jouer, mais il s'est passé quelque chose et il pouvait plus, ou alors ils ont. Enfin.
Ouais, ça va.
Parce qu'à la base, il voulait revenir, quoi. C'est pas bien grave. Je l'aime bien, ce mec-là.
Sirian. Mais oui, non, clairement, là, on comprend quand même que bon, le film, il va pas se préoccuper. Enfin, genre, son truc d'exposition, il va aller au plus simple. Hein. Moreau, il vient et lui dit, voilà, ça, c'est la mission, ça, c'est le concept, c'est le film. En échange, surtout, moi, je te propose, si tu m'aides, de t'enlever le Ghost Rider, comme, de t'enlever la malédiction, en
c'est
fait.
C'est ça.
Et puis Nicolas Cage accepte, quoi. Au début, il dit, ouais, mais moi, mon rôle, c'est pas d'aider les gens. Et puis, bon, il change assez rapidement d'avis. Et donc, là, il fait... Ouais, vas-y.
Non, mais c'est juste pour dire ça. Par contre, ça fait plusieurs mois qu'il essaye de retenir le rider, qu'il ne veut pas le laisser sortir. Et là, Moreau, en gros, lui demande, fais sortir le rider parce qu'il n'y a que lui qui peut le retrouver, en fait. Et là, il lui demande, mais comment est-ce que je vais le retrouver? Il lui dit, c'est simple. Ce gamin, il est probablement là où il y a Rourke. Donc, si tu files Rourke, tu vas retrouver le gamin, quoi.
Ouais, il y a ce côté de tu as caché ta, tu veux, t'essaies de mettre de côté ta part sombre et tu vas devoir t'en servir à ce moment-là. Bon, c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans Hulk. Hein.
Oui, exact.
Puis c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi.
On a droit à Nick Cage qui hurle comme un malade parce qu'il essaie de faire sortir le Rider.
Nick Cage,
c'est
alors là,
génial.
Là-dessus, on sait déjà qu'en folie, il aura pas 5. Non. Il s'est fait plaisir et vraiment, on sent qu'ils lui ont dit on veut, c'est ça qu'on veut.
Ah, on veut du Nick Cage.
Et il y a des moments de régalade.
Et on l'a, quoi. on a du Nick Cage. Puis ce que j'aime le plus dans le film, c'est vraiment, même quand il est en rider, donc il y a son crâne qui est en feu et tout ça, là, tu sens son corps, il est genre en mode. il est en mode folie, là, donc c'est quand même cool. Voilà, donc il se transforme en rider et directement, sans même réfléchir, monte sur sa moto qui a, personnellement, je trouve, plus de gueule que dans le premier, même si elle est moins stylisée que dans le premier.
Elle est moins excessive, ouais.
Et il part en moto essayer de retrouver où est l'enfant qui, maintenant, a été enlevé par des gars à Rourke, je crois.
Ouais, bon, on le sait pas encore, mais il a été enlevé par une bande, quoi, menée par...
un gars qui s'appelle Kerrigan.
Johnny Whitworth, donc l'acteur, qui est un mixte. Sur la première scène, je me suis dit, mais c'est ouf, c'est un mix parfait entre Jim Carrey et Kurt Russell. Sa première apparition, c'est Kurt Russell qui fait une grimace à la Jim Carrey. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a... C'est abusé. Et là, je revois l'image, c'est vrai qu'il fait... il a vraiment un côté Kurt Russell de ouf, quoi.
J'avoue, il a son petit...
Je sais pas trop ce qu'il a fait, enfin, on a dû en parler, mais j'ai l'impression de l'avoir vu dans... Ouais, depuis, il a pas fait grand-chose. Je regarde en même temps, là. Il a pas fait grand-chose. Mais... Bon, je sais pas si c'est dommage, hein, mais en tout cas, il a une sacrée gueule, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça va être un petit peu important, je relis vite fait. Une des raisons pour laquelle Johnny Blaze se cache, c'est aussi parce que le rider ne fait aucune différence entre quelqu'un qui a genre commis un génocide et quelqu'un qui a juste dit à sa mère qu'il n'allait pas rentrer ce soir alors qu'il est chez lui, je sais pas. Enfin bref.
Non mais en gros, oui, voilà, il n'y a pas de... de hiérarchisation dans les
scènes,
dans les ouais les méfaits que
dans les crimes
pillent, quoi.
Voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'il se cache, et parce qu'il peut pas, il peut pas s'en servir en fait comme
bah, il arrive pas à le maîtriser, donc du coup lui il est pas, il est pas en, Johnny Blaze est pas en accord avec ce que fait le toujours le Rider quoi.
Et ça va, et ça va avoir une importance maintenant quand le Rider réussit à retrouver le comment on appelle ça, le van dans lequel sont
Carrigan
et tout le monde.
Carrigan qui est voilà qui a kidnappé, et là il a, je sais plus si c'est à ce moment-là ou il, non ou c'est après qu'il appelle Rourke, mais en tout cas il a kidnappé, il a besoin que du gamin, donc il va pour tuer la mère. Et c'est à ce moment-là, voilà, oui, où il y a Nicolas Cage qui débarque en...
Et on a le droit à une première, déjà une première apparition de lui, parce qu'en fait, jusque-là, on n'avait pas vu à quoi ressemblait le Rider, là, mais genre, qui quand même a de la gueule, enfin, je sais pas, je trouve ça a de la gueule. Et on a le droit à une scène de combat qui est quand même, bah alors, qui est brouillon à la Neverdeen et Taylor, Neville Dean et Taylor, putain, je suis capable de prononcer leur nom, mais qui est quand même super classe, quoi, avec le Rider qui, genre, déboîte des gars à la chaîne qui les fait, genre, mais s'il a des chaînes, hein.
Oui.
Et quand il les fouette avec, ouais, mais quand il les fouette avec, contrairement au 1, les gars explosent, se transforment en cendres. Il regarde un mec dans les yeux, puis il commence à genre essayer à lui aspirer son âme pendant que les autres sont en train de lui tirer dessus. Ils sont tous, enfin, t'as vraiment l'impression d'être rentré dans un film d'horreur de série B, quoi. Et j'ai trouvé, enfin, j'avais oublié cette ambiance là.
T'as
mais génial, quoi.
T'as la scénette un peu classique où le mec apparaît, tout le monde lui tire dessus, et bah après ils se rendent compte que ça sert à rien de lui tirer dessus. Sauf que là, c'est fait où les acteurs ils tirent tous des gueules un peu rigolotes, enfin. C'est fait de manière cartoon, qui du coup ça change un peu l'angle par rapport à ce genre de scène un peu obligatoire de films de super-héros ou de super-vilains où les mecs se rendent compte que bah c'est pas un mec normal, même si bon, quand tu vois quelqu'un qui a une tête en feu, ça doit te donner un indice.
Tu t'en doutes.
Tu dois te dire je serais pas étonné si mes balles ne servent à rien. Mais oui, non, c'est assez fun, la scène de combat. Alors c'est pas, peut-être pas la plus sympa du film, mais en tout cas
oh non, 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 du tout. Elle est cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté Nick Cage est vraiment rentré dans ce moment, parce que tu le sais, tu le sens que c'est Nick Cage dans un blouson en cuir cramé avec genre un écran vert sur sa face, là, tu sais, genre une capuche verte sur sa face pour mais tu le sais que c'est lui, parce que genre la manière dont il marche, il bouge, tu sais, il est en mode ouais, c'est un monstre, quoi. Il fait des mouvements super weird quand il saute sur des gars, genre, enfin, c'est génial, quoi. Et là-dessus, bon, les autres sont en mode, bon, écoute, peut-être que les fusils, la mitraillette, ça fonctionne pas, mais peut-être qu'une grenade, ça va marcher. Donc, ils sortent leur fusil à pompe avec un lance-grenade dessus, tirent 2-3 grenades sur le mec. Bon,
c'est pas après, ça
le ralentit. Bah, c'est là, là. Il lui tire dessus, il se rend compte que ça le ralentit.
Il va acheter encore d'autres explosifs, là.
Ouais, bah après, il achète plus d'explosifs.
Ouais,
pour l'instant, il a déjà un lance-grenade.
Il a déjà des grenades.
Et.
Ouais, ils avaient envie de faire péter des trucs, hein, clairement.
Enfin, voilà, quoi. Aussi, bon, donc en gros, ces mecs-là réussissent à s'enfuir avec le gamin quand même. Même si il y a, on se rend compte qu'il y a l'air d'avoir quelque chose entre le gamin et le Ghost Rider, puisque quand le Ghost Rider essaye d'aller, genre attaquer l'enfant, bah, il se fait plus ou moins arrêter par l'enfant qu'il regarde dans les yeux. Alors que généralement, les gens ne veulent pas regarder dans les yeux du Rider. Parce que c'est comme ça qu'il t'aspire ton âme. Donc tu sens que bon, ok, le gamin il est pas.
Ouais, bah il y a deux choses. Il y a deux possibilités. Il y a ça ou le fait que vu que c'est un enfant, il est totalement innocent. Mais on l'avait déjà vu ça dans le premier film et ça se passait pas exactement pareil.
Ouais, mais oui et non, parce qu'on sait vraiment très rapidement que ce gamin-là est pas innocent. Il vole, il est. Enfin, c'est un pour survivre, hein, bien sûr. Mais comme on a dit tantôt, le Ghost Rider fait pas de différence entre quelqu'un qui vole pour la survie et quelqu'un qui vole parce qu'il veut voler. Donc, techniquement, il aurait dû l'attaquer là, mais il n'y arrive pas, quoi. Et d'ailleurs, ça permet aux gens de s'enfuir et de s'enfuir en fait avec l'enfant et leur mère qui finalement ils décident de pas la tuer apparemment. j'ai pas compris pourquoi ils le gardent maintenant, mais très bien.
Pourquoi ils gardent quoi?
Pourquoi tu sais, parce qu'à la base ils voulaient tuer la mère, mais finalement ils la tuent pas parce qu'ils la gardent. Donc j'ai pas compris.
Non mais la mère elle part pas avec eux.
Si elle se fait enlever. Elle se fait enlever aussi. Non, attends, non, t'as raison. Non, elle réussit à s'enfuir, t'as raison.
En gros, ils se barrent avec le gamin, ils se disent oh putain, et c'est un taré, lui, vas-y, je me barre avec le. On se barre, et puis voilà quoi. Et lui, donc.
Oui. Non, c'est ça.
Ouais, ça. Donc là, il se réveille, il est retourné dans sa forme Johnny Blaze, donc on voit que ça lui a quand même laissé des traces, il a des grosses des blessures au niveau de l'abdomen et tout.
Il se réveille à l'hôpital.
C'est ça.
Et les gens lui disent tes blessures, elles sont bizarres. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré cette scène parce que t'as l'impression que le mec, il se réveille, il a déjà pris 3 Red Bull, oui. Et il est en train de parler avec l'infirmière. Il est en mode, j'essaie de flirter avec toi, mais le gars est genre, non, moi je vais chercher la police. Ouais, non, pas la police.
Elle parle pas très bien anglais, quoi. Donc il y a une incompréhension, ouais. C'est marrant comme scène. Et juste après, donc on a Carrigan qui appelle Rourke et qui lui dit écoute, t'es bien gentil, hein, tu m'as demandé d'attraper un gamin, moi je veux bien, j'ai déjà fait avant. Et puis en plus là, ça tombait bien parce que c'est l'ex petite amie de Nadia, ouais, donc la mère. Mais là, y a un mec un peu bizarre qui nous a attaqué, donc va falloir m'améliorer ma paye, quoi. Je sais plus exactement ce qu'il lui répond, mais en gros, il y a Rourke qui...
Bah, le gars lui dit, quel type bizarre, un type bizarre avec des flammes sur sa tête. Le gars est genre...
J'en connais plusieurs.
Donc déjà, il s'attendait pas à ce que le Rider soit là, c'est quand même assez drôle comme truc. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il demande à Carrigan de parler au gamin.
Il lui donne
une incantation. Ouais, voilà. Qui fait que du coup le Rider peut pas sentir Danny.
Ouais. Et du coup, l'idée c'est que
comme il lui explique que le sort fonctionne que sur Danny, pas sur Carrigan, donc tu ferais mieux de bouger ton cul parce qu'il peut très bien te retrouver toi. Genre.
Ça, là, l'idée maintenant c'est donc que Carrigan, il doit transporter le gamin jusqu'à Rourke. Qui en a besoin, alors je sais plus s'il l'explique à ce moment-là ou pas, mais en gros, il veut utiliser le gamin comme sa prochaine enveloppe physique, quoi.
Exact. Ben c'est ça, en gros. Là, on apprend, grâce à une conversation entre Johnny et Nadia, qui l'a en fait retrouvé dans l'hôpital, qu'en gros, elle a vendu son âme à Rourke, et que, parce qu'elle était sur le point de mourir, et en gros, Rourke lui a dit très bien, mais dans ce cas-là, ce que je veux, c'est que tu me donnes
un enfant,
un fils. Et qui va utiliser justement pour avoir un corps dans le monde physique qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs. Parce que pour l'instant, il a un corps qui est mortel et à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, ça détruit plus ou moins son corps. Quoi.
Ouais, il ne peut pas trop utiliser ses pouvoirs dans le monde des vivants. Quoi.
Voilà.
Et il y a Nicolas Cage qui convainc Nadia de... Enfin, il lui dit ok, je vais t'aider, et puis on est parti, quoi. Donc là, ils doivent retrouver Carrigan. Donc pour ça, ils vont interroger un mec qui connaît Carrigan. Et c'est là où on a. Attends, je sais plus cette scène. Il y avait un truc cool dans cette scène. Non, je sais plus comment il l'interroge.
En fait, il sent le parce que en fait ils vont dans une espèce de fête là, de club, et en gros il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de gens qui sont des criminels dans cet endroit là, ce qui fait que le Rider a envie de sortir. Quand il récupère le mec, le gars est en mode écoute, moi je veux savoir où est Carrigan, mais tu ferais mieux de me le dire parce que sinon le Rider est en train de sortir. Tu vois la tête de Nicolas Cage changer,
C'est là où le Nicolas Cage se lâche. Il fait quelques rires dont il a le secret, mais ouais. Franchement, je pense que ça fait partie de ses meilleurs de sa carrière, quoi.
Ah, moi, il me
je trouve
fait
que
peur,
là, je me suis dit, putain, là, il a maîtrisé l'art du rire à la Nicolas Cage.
Ouais. Ah, il est à fond, et puis tu sens qu'il est genre, ouais, il est frantique, il est, tu sens qu'il se retient, mais en même temps, il se lâche, il en peut plus. Et en gros, le gars en face est genre complètement effrayé, donc il lui dit que Carrigan est dans une carrière où il a justement commandé des armes un peu plus puissantes, machin, blablabla.
Ouais, non, mais c'est là où je me suis dit, il joue le taré, mais il le joue, enfin, il le fait exprès et il est dans la maîtrise du truc, quoi. Ouais. Alors qu'il y a des films où il n'était pas dans la maîtrise du truc. Et là, voilà. Je me suis dit, ok, ça fait plaisir.
Et donc, après, ils se font plus ou moins poursuivre par 2-3 gardes. Donc là, le Ghost Rider sort. Et sans même s'assurer que Nadia est encore en vie ou pas, il se barre et il monte sur sa moto. Il s'enfuit à la carrière. On a même le droit à Nick Cage sur une moto qui est en train de hurler comme un porc, c'est magnifique. et là, on coupe, on est à la carrière et Carrigan est en train de parler avec un marchand d'armes qui lui donne des missiles qui sont genre télécommandés machin par la chaleur, ce qui est la meilleure chose que tu veux contre un truc qui est en feu, I guess. Et on a le droit au Rider qui arrive, et on a le droit probablement à la meilleure scène de combat de tout le film.
Ouais, c'est possible.
Parce que.
Et surtout, il y a le truc avant où le mec, c'est un peu bateau comme phrase, mais bon, c'est bien délivré, ouais, donc ça m'a fait plaisir. Personne, où il dit ah ouais, putain, vous voulez trois missiles comme ça et tout, mais vous battez combien d'hommes? Et le mec, il fait un seul. Et là, ils sont morts de rire, justement. Enfin, ça marche bien, quoi. Il y a un peu des espèces de petites punchlines, justement, de trucs de série B qui sont assénés comme
ouais,
ça.
Ouais, ben voilà, mais c'est
plusieurs moments dans le film, il y en aura une notamment. Enfin, il y en a souvent après certains kills, quand ils tuent des mecs. Tout de suite, il faut forcément qu'ils sortent une petite phrase cool derrière. Donc,
Man, ça se prend pas au sérieux, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, puis là, justement, t'as le rider qui arrive sur sa moto. L'autre est en mode, bon, je vais lui tirer dessus avec mon lance-roquette. Il lui tire dessus avec son lance-roquette. Ils sont tous, genre, refaits parce que, ouais.
Mais c'est là où
On l'a eu. Que dalle, le mec sort des flammes à la classe. Il marche comme ça au milieu de tout le monde. Tout le monde commence à être stressé, commence à lui tirer dessus. Et là, ça part en couille. Là, il commence à tuer à mettre des coups de chaîne sur tout le monde.
Quand tu dis coups de chaîne, tu parles pas du mec de NTM.
Non.
Voilà, c'est pour moi.
Cool chaîne, des cool chaînes.
Voilà.
Non, il commence à balancer sa chaîne il tue des gens genre à la chaîne, dans le double sens du terme. C'est magnifique.
Et surtout, il y a ce moment là, où il se prend le missile dans le vide, là. Incroyable.
Ah, c'est magnifique. Ouais. T'as Carrigan qui recharge son gun et ils sont juste super proches l'un de l'autre. D'ailleurs, je crois il est carrément sur Carrigan, il a sauté dessus. Donc t'as l'autre, il balance son missile. Du coup, t'as le rider qui est en train genre de décoller avec le missile.
Oui.
Et puis ça lui fait rien, quoi. Il est juste genre, il est juste en train de rigoler comme un connard alors qu'il est genre.
C'est vraiment, c'est à la mode, tu sais, quand il y a Team Rocket qui se fait envoyer dans l'espace, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il est là, il est propulsé vraiment dans l'espace avec son missile il est en train de. Bah, il ride sur le missile un peu. C'est très con.
Et là, on a le droit, mais genre à la scène, moi, qui me fascine le plus de tout le film, c'est parce que donc ils sont dans une immense carrière et donc il y a un immense. Une de ces immenses machines qui sert à genre creuser dans les, les carrières, quoi, qui fait genre 500 tonnes, puis avec. C'est genre, ça ressemble à une grue, mais au bout de la grue, il y a genre une roue qui creuse, quoi. Et le mec, il rentre là-dedans et il transforme ça en genre Ghost Rider enflammé, machin.
Ouais,
et
bon,
commence
ça,
juste
on s'en doutait parce qu'on avait eu une scène juste un peu plus tôt où il parlait avec Danny. Et Danny, il lui demandait, mais si tu te mets sur. Si tu rides ça.
Non,
ça,
c'est après.
C'est après?
Ça, c'est après. C'est... Bah oui, parce qu'ils ne sont pas encore rencontrés.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, du coup, c'est dans l'ordre des ordres.
Ouais. Quoi. Ouais.
On a
c'est juste après ça.
On a eu l'utilisation du fusil avant la pose du fusil. Quoi.
C'est ça.
Parce qu'après, ça rappelle pas dans le film. Il n'y a pas un truc un peu improbable qui... Ah ouais, donc c'est marrant. Ils ont vraiment fait dans le sens... Alors, où ça a changé dans le montage Ou c'est fait exprès, je sais pas. Mais...
Bah non, ils étaient pas censés se connaître. Parce que justement, non, mais donc, pendant dire, que le...
Peut-être que le truc était pas prévu comme ça à la base, quoi. Mais en tout cas, c'est marrant qu'il y a limite le... Enfin, quand ils ont cette discussion, tu te dis, ah bah, il va rider un truc un peu
servir,
cool.
Ouais.
Mais en fait, c'était avant, quoi.
Et parce que voilà, justement, pendant que le Ghost Rider est en train de s'amuser comme un malade avec ses pouvoirs, la mère de Danny s'infiltre par derrière et récupère son enfant, non sans abattre un gars d'une manière tellement cool. Voilà. Et ils finissent... le rider finit par essayer de poursuivre Danny pendant que Danny et sa mère sont en train de s'enfuir. Et au moment où le rider rattrape ces deux personnes-là et va presque tuer en fait Nadia, en la regardant avec le penance there, Danny l'arrête tout simplement avec un seul mot en lui disant stop, c'est fini. Et ça retransforme le rider en Nick Cage et lui il est juste genre ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et il est un peu perplexe. Voilà. Et donc là, oui, là, on a la scène où ils sont en train de voyager ensemble parce qu'il faut qu'ils recontactent Moreau. Et là, on a un petit moment touchant entre Johnny Blaze et Danny. Un petit moment genre père-fils, entre guillemets.
Ouais, bah, c'est très Blaze court. Mais en fait, en une scène très courte, je trouve qu'il arrive à donner suffisamment l'impression qu'il y a un petit moment de connexion entre les deux pour que le reste du film, voilà, on n'ait plus besoin de se poser la question. Donc effectivement...
Ouais, parce qu'il a envie de sauver Danny pour sauver Danny, quoi, au lieu de
ouais,
juste...
et puis bah, Danny, c'est un gamin normal, parce qu'il pose plein de questions et tout, et puis, Johnny Blaze, il joue le jeu, quoi, il lui répond à ses questions, voilà, il lui demande qu'est-ce qu'il fait si t'as envie de pisser pendant que t'es en Ghost Rider, bah, il dit voilà, ça fait un lance-flamme, machin et
ça
tout.
Ça fait un lance-flamme. Ouais. On a le droit à cette scène formidable. mais il y a ça, et surtout, ce que j'aime bien, c'est un peu le côté, c'est parce que, bon, depuis le début, on t'explique que Johnny Blaze, il est genre, tu sais, torturé par son machin. Et là, c'est un peu le moment où son côté gamin, parce que Johnny Blaze, c'est un grand enfant au final, son côté gamin ressort un peu. Donc après, voilà, on a le droit à lui et Danny sur une moto en train de faire des tricks avec sa moto, machin. Donc un petit moment super sympa. Mmh. Ils se font rejoindre par Moreau. Et Moreau est en mode « Bonjour, allez, viens, on va rejoindre les monks, les moines. » »«
Bonjour, je suis français. De... »«
Je suis français. » »« On va rejoindre les moines du monastère perdu dans la pampa. »
Et pendant ce temps, on a Rourke qui débarque sur les lieux de... où il y a eu la baston, et qui voit Carrigan qui est enseveli sous des pierres et qui est au bord de la mort. Et il lui donne un pouvoir, en fait, il le transforme en tant que démon blackout, qui a un pouvoir qui fait que tout ce qui touche tombe en fumée, quoi. Enfin, c'est pas que ça tombe en fumée, c'est que ça, tu sais, que ça vieillit, que ça pourrit.
Ça pourrit, quoi. Ouais. Pestilence, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on a le droit à une scène assez marrante où il essaye de manger, mais il n'y arrive pas, parce que chaque fois qu'il touche quelque chose, ça se détruit. J'ai aimé ces moments-là. Oui. Il y a beaucoup d'humour dans ce film-là, en fait.
Tu vois, je pensais que ça serait... Je pensais que ça serait beaucoup plus gras, beaucoup plus... Et en fait, pas du tout. Non, tu vois, même la scène, justement, qu'on disait, où en fait, il pisse et du coup, ça fait un lance-flamme. En fait, c'est pas du tout à l'intérieur d'une scène de baston et tout. C'est plus du point de vue du gamin, parce qu'en fait, il lui raconte ça, il joue le jeu avec le gamin. Donc en fait, même ça, c'est mignon, c'est pas du tout gras et...
C'est pas... Ouais, je suis d'accord.
Moi, j'avais en tête que c'était un peu venu au milieu de nulle part, enfin, que c'était un moment où il vous avait voulu faire une blague. En fait, non, c'est pas vraiment ça. Il y a l'endroit où c'est placé, ça rend le truc bien plus intéressant que juste... c'est marrant, regarde... Ça fait un lance-flamme.
Hein. Ouais, mais je pense que c'est surtout parce que on avait en tête l'humour de Neville Dean et Taylor.
Gamers.
Et en fait, non, je l'aime beaucoup, là.
Ouais, c'est assez bien dosé.
Ouais, voilà. Et en gros, ils finissent par arriver au monastère où on a le droit au meilleur moine de tous les temps, joué par notre grand ami Christophe Lambert.
Ouais, bon, on le voit pas tant que ça.
Chauve et tatoué partout, genre. incroyable, quel homme formidable, qui en gros bah, est en mode bon bah voilà, t'as réussi maintenant, on va prendre l'enfant, on va le cacher jusqu'à ce que Rourke arrive, bah, tu sais que ça passe, et voilà, tout ira bien. Et là-dessus, bah, Johnny Blaze est en mode « Oh, c'est cool, on a réussi ». Il parle à Danny en lui expliquant que « Bah ouais, moi je vais aller me débarrasser en gros du Ghost Rider. » C'est finalement, Moreau tient sa promesse. Et Danny semble un peu... Il est déçu, quoi, parce qu'au lieu d'essayer de contrôler le rider, il décide de s'en débarrasser, alors que lui, ce qu'il trouve cool chez Johnny Blaze, bah, c'est un... Bah, bon, ok, il trouve Johnny Blaze cool de base, mais il trouve que le rider est super cool, machin, donc lui, il est un peu déçu. Et là-dessus, il lui dit, non, mais t'en fais pas, je reviens, parce que, en fait, au final, maintenant que Rourke, c'est plus un danger, bah, la seule chose qui est dangereuse pour vous, c'est moi, quoi. Et moi, je veux pas être un danger pour vous. Ce qui prouve un peu plus que, bah... Johnny a un peu envie d'être une father figure pour Danny. J'ai trouvé cute. et voilà, donc là, on a le droit à cette scène un peu sympatoche avec Idris Elba et Johnny Cage. Et
ouais, c'est ça, du coup, il a tout un espèce de parcours à faire. Et j'ai bien aimé ce côté-là. Ça m'a fait un peu penser, tu sais, le côté les Indiens, ou je crois qu'il y avait ça, enfin les Indiens d'Amérique, ou peut-être en Amérique du Sud aussi, on a ce côté, tu sais, où tu vas consommer, souvent c'est un truc un peu psychotrope, quoi. Et après, t'as une espèce de, voilà, tu vas avoir une espèce de truc qui est à la fois physiquement là, parce qu'il se trimballe dans des cavernes, en fait. D'ailleurs, l'endroit est très sympa, visuellement. Ouais. Et tu sais pas trop s'il est dans sa tête ou pas, mais aussi donc, le parcours initiatique dans sa tête, et aussi le parcours physique, parce qu'il se déplace dans la caverne. Et l'idée, c'est, ouais, je sais plus, il consomme un truc avant de ça
Ben, il boit du vin.
Ah oui, voilà, le pain du Christ, machin et tout. Enfin, et
ça m'a fait rire aussi, cette petite scène entre Idris Elba et...
Ça m'a fait penser un peu à ce qu'il y avait justement dans ces cultures-là, ouais.
Et j'ai vraiment aussi aimé le côté un peu... Parce que pour une fois, on s'arrête et on est vraiment... Parce que c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai aimé le film, la manière dont il amène ça. C'est-à-dire qu'on... Maintenant, on est posé, c'est-à-dire que c'est juste deux hommes face à face qui entament justement une discussion. Et le gars est en mode, ok, bon, bah, déjà, il lui explique finalement qui est le Ghost Rider. On apprend qu'en fait, c'était un ange, Zarathos, qui avait été envoyé sur Terre pour protéger les humains, qui était en fait l'ange de la justice, mais qu'en gros, il a été perverti par Rourke et est devenu l'ange de la vengeance. Et aussi, on a le droit à un petit moment par rapport à Johnny Blaze, parce qu'en gros, le gars lui explique, il lui dit pour que ça enlève le contrat, finalement, il faut que tu admettes quelque chose par rapport à ce contrat-là. Et lui, en gros, ce qu'il a admis, c'est que, ben, en fait, c'était complètement selfish. C'était complètement...
égoïste.
C'est quoi selfish en français ?
Égoïste.
Égoïste, merci. Parce que en fait son père était prêt à mourir, quoi. Il avait accepté son cancer, et que la seule raison pour laquelle lui il a signé le contrat, c'est parce que lui était pas prêt, et que donc très clairement, probablement qu'il y avait cette guilt sur sa conscience qui faisait que, et c'est une des raisons pour laquelle le Ghost Rider arrive à être attaché autant à son âme, en fait.
Ouais, après,
continue à être
c'est un peu un truc de, alors tu dois te révéler un terrible secret, mais en même temps c'est égoïste, mais c'est pas trop méchant, quoi. C'est
pas le pire, ouais, c'est pas la pire chose à faire.
Genre, il révèle un truc, mais qu'il le fait pas passer pour un méchant non plus, quoi. Genre, son truc, c'est je l'ai fait pour moi, parce que, mais quand il dit ça, tu dis ah. Et en fait, c'est parce que j'aimais mon père. Oui, bon, d'accord, ça va.
Oui, ouais, j'avoue.
Mais voilà, ce qu'il dit, c'est il l'a pas fait pour sauver son père, mais parce que lui, il se voyait pas vivre sans son père.
Exact.
Effectivement, donc qu'il ait confessé ça, plus, bon, voilà, ils ont partagé le pain, machin et tout, ça va le permettre de déclencher tout ce processus-là. Et processus qui est quand même dangereux, hein, parce que Moreau lui explique que c'est pas impossible qu'il meure dans le truc, quoi. C'est un truc... un peu risqué, mais il le fait. Et là, t'as une scène qui est un peu justement que là qui est pas ancrée dans la réalité, hein, qui est où tu le vois et c'est assez visuellement, c'est assez réussi, j'avais trouvé. Enfin, les idées de les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, ils sont pas parfaits, tu vois, à ce moment-là par exemple. Mais dans les idées de réalisation, c'est assez sympa. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais alors il est en Ghost Rider et il y a des longues chaînes qui partent de lui.
De sa bouche, ouais, comme si ça sortait de lui, ouais.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est,
en
c'est,
gros,
c'est,
tu vois ça, que là, il y a le truc du Ghost Rider qui le quitte, quoi, qui quitte son corps.
C'est ça, ouais. Non, c'est assez bien foutu visuellement. Bah, tu sais, après, CGI était en CGI en 2011, hein, mais tu sais, enfin, je veux dire, ça
ouais,
a
une certaine gueule. Et là, regardez, t'as les chaînes,
voilà,
en fait, qui sortent de sa bouche.
Chaînes,
un peu comme les magiciens,
bouche,
ouais, quand ils sortent le foulard et que ça s'arrête jamais.
Et on a voilà, et donc on se rend compte que lui est complètement qui n'est plus sous l'emprise du Ghost Rider du tout, quoi. Mm. Et malheureusement au même moment le moine Methodius, joué par Christophe Lambert, qui est tatoué de partout, décide que explique en gros à Danny que il sera jamais libre de ce truc-là. En gros, ce mec-là avait dit à Idris Elba que une fois que
le gamin pouvait être sauvé, quoi.
Le solstice d'été serait passé, ce serait fini et Rourke pourrait jamais le prendre. Mais en fait, c'était que des conneries. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait l'aube d'un nouveau jour à chaque solstice, quoi. Donc en gros, à chaque fois, il peut le refaire, quoi. C'est juste que lui, il veut le faire maintenant parce qu'il commence à perdre ses pouvoirs, quoi. Et
du coup, il veut tuer le gamin parce qu'il dit voilà, c'est trop risqué.
Voilà. C'est ça, exactement. Sauf que à ce moment-là, on a le droit à avoir Blackout, qui les a trouvés, on sait pas comment. Mais bon, qui tue tout le monde et on a même droit à une scène plutôt cool où il tue.
Ouais.
Christophe Lambert en le touchant, puis Christophe Lambert genre.
Ouais, parce que c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il les attaque, mais a l'impression qu'il les attaque pas dans le plan réel. Il est invisible. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est assez stylisé en fait. Il les attaque. En gros, c'est tout noir. Ça fait un peu penser, au moment où tu tues quelqu'un dans Assassin's Creed, quand tu tues une cible. T'apparais un peu derrière lui, tout est noir, et en fait, tu vois juste Blackout et la personne qui doit tuer. Et il est dans son dos souvent, il le touche, et du coup il le fait un peu disparaître, quoi, avec son pouvoir. Et il fait ça un peu sur ouais. chaque personne. Quand il va se battre contre Methodius, ça va être un peu plus long parce que bon voilà, il a un sabre, mais au final il y a pas vraiment un combat, hein, qui se met en place assez rapidement. Il le tue aussi. C'est pour ça que tu sais qu'on voyait peu Christophe Lambert. Je pensais qu'il apparaissait plus longtemps dans le film, mais en fait non, vraiment il se fait buter.
7 minutes.
Ouais, voilà, il a deux scènes, quoi. Quand il dit bonjour et ouais. quand il dit je vais tuer le gamin, quoi. Du coup, Kerrigan là, donc qui est maintenant Blackout, il a tué tous les moines et maintenant il a récupéré Danny. Et après ça, il y a Nicolas Cage qui se réveille de ce qui lui est arrivé, qui sort et qui là, il dit oh, il y a quelqu'un. Et il se rend compte que il tombe sur comment il s'appelle sur Idris Elba, quoi, qui lui explique la situation.
Moreau, ouais.
Sur Moreau. Et il y a aussi la mère qui est là et Nicolas Cage lui dit à la mère OK, j'ai eu ce que je voulais, je suis plus le Ghost Rider, mais c'est pas pour ça, pas pour autant que je vais laisser tomber Danny. Allez, on est parti, on y va, on va le sauver.
Voilà, en plus Moreau leur explique que les moines ils ont genre une chier de guns de partout, là, ils ont une chier de pistolets de partout.
C'est pas mal ce truc là.
Donc ils ont.
Il lui dit. Ouais. Il, et lui qui dit j'ai pas trop confiance et tout. Enfin, mais je croyais que tu devais avoir à la foi. Alors la foi c'est bien, mais j'aimerais bien aussi avoir des guns.
Non, puis ça fait penser à la White Room dans Matrix quand ils veulent récupérer des armes. Genre, c'est vraiment genre des rangées de guns. Oui, oui. Juste ok, d'accord, les moines.
Ah, les moines ninja ou les moines avec des guns, ça marche toujours, quoi.
C'est toujours de la classe. Et voilà, donc bon, alors une fois de plus, ils vont au. au camp, bah, à l'endroit où Rourke il est, mais sans savoir, oui. On sait pas comment est-ce qu'ils savent où est-ce qu'il
par
est.
Contre, bon, juste après, là, on a quand même droit à la scène où j'ai peut-être le plus gros surjeu d'une personne du film.
Idriss.
On a donc Rourke qui va voir pour la première fois son fils. Mais là, mais Cyan, il surjoue, mais tellement. Mais c'est fait exprès, mais c'est. En fait, il s'approche du gamin et il veut lui faire un sourire, mais comme quelqu'un qui sait pas ce que c'est, faire un sourire. Et du coup.
Ouais, puis il a la moitié de sa face qui est genre cramée aussi, parce qu'il a utilisé ses pouvoirs, et donc du coup, il est juste genre.
Oui, il se trouve que l'acteur. Enfin, ça sent bien avec l'acteur qui a vraiment quelque chose, quoi. Ouais, il sourit, et c'est tellement malaisant, ce sourire forcé. C'est assez marrant.
Donc voilà, ouais, Rourke rencontre aussi son fils pour la première fois en fait, et lui explique que ben en gros il a les mêmes pouvoirs que lui, et donc enfin il y a tout un tas de trucs, et que c'est pour ça qu'il veut son corps, et il le met sous sédatif pour commencer en fait l'incantation,
le transfert,
je sais pas quoi là,
ouais. La cérémonie qui va leur permettre de transférer ses pouvoirs. Mais
ce à quoi nos héros se ramènent.
Ouais, c'est vrai que c'est
on
c'est
a le droit à une scène avec Idriss Elba qui est de toute beauté là, quand il boit son vin et que il tire sur deux gars en leur en mode hey, attrape mon vin, et après il les shoot, et il est genre oh, quel gâchis de vin.
Ouais, bah là c'est la scène où il brille un petit peu, donc on le voit combattre, tirer sur un peu sur quelques mecs et tout. Et il finit par se faire buter par Blackout.
Exact.
Voilà, donc là maintenant il y a Johnny Cage. Johnny Cage, voilà, je fais la même connerie que toi.
Je dis que tu dis la même que moi.
Johnny Blaze qui débarque. Du coup, Rourke lui dit bah c'est gentil hein, mais t'as plus les pouvoirs de Ghost Rider, donc là t'es minable comme n'importe quel être humain. Il dit à ses disciples bah butez-le, il y a Blackout qui va pour le buter. Et à ce moment-là, t'as Danny qui se rapproche comme ça. Il fait ah c'est marrant, ah tu veux voir ça de plus près, t'es bien comme ton père toi. Ouais. Et Danny fait putain, donc on a les mêmes pouvoirs, c'est ça. Hein. Du coup, je peux lui remettre le pouvoir du Ghost Rider. Et donc, voilà, il redonne les pouvoirs du Ghost Rider à Nicolas Cage.
J'ai aimé comme genre personne se rend compte de rien jusqu'au moment où t'as Nick Cage qui fait « Oui, vas-y, fais-le
si. !» Ah, justement, t'as Rourke qui s'en rend compte avant quand même.
Ouais, mais genre 2 secondes avant, quoi, c'est genre. Ah, c'est la tristesse.
Ça dure un peu de temps, enfin, t'as le moment où vraiment il lui dit putain, il est vraiment en train de. Il est en train de me faire ça, le con, le petit con.
Par contre, j'ai vraiment aimé le moment où Nick Cage redevient le Ghost Rider, parce qu'il est entouré de genre un truc comme genre 200 personnes autour de lui qui essayent de genre le calmer, puis il se réveille, puis genre il utilise juste sa chaîne pour genre faire une spirale autour de lui, puis genre génocide de tout le monde là. C'était plutôt cool.
Ouais, et puis c'est il a pas tout de suite la tête enflammée en fait, il y a vraiment une fumée noire qui sort, et du coup ouais. ça fait toujours assez stylé quand toute cette fumée comme ça qui sort du crâne, tu sens que voilà, il lui faut un peu de temps pour reprendre ses pouvoirs, mais que ça va arriver.
Et d'ailleurs, un truc qu'ils disent pas trop dans le film, dans le deuxième film, mais quelque chose qui était important dans le premier, c'est que le Ghost Rider pouvait pas être le Ghost Rider quand il faisait jour.
Ouais, il y a une petite scène au début là, où je sais plus qui c'est qui lui ouvre les rideaux et voilà, mais bon. Oui, effectivement.
Ouais, Moreau ouvre les rideaux et ouais. Et donc là, Danny lui a tellement redonné de la puissance que maintenant il est capable d'être le Ghost Rider même pendant la journée. Et voilà. Rourke réussit à quand même enlever Danny et s'enfuit
ouais,
avec lui.
Pendant qu'il est en train de buter les autres, il prend un peu d'avance.
Voilà, pendant que. Ben voilà, parce qu'il faut quand même qu'il se batte contre Kargan. Là. Il le défonce. Ben ils sont dans. Ouais. C'est une course-poursuite, c'est un peu cool. En fait, c'est une course-poursuite assez cool.
Comment ça arrive déjà
Mais en fait, il y a Nadia qui est en train de poursuivre Rourke en voiture. Il y a le Ghost Rider qui arrive en moto. Il y a Kerrigan qui saute sur la voiture de Nadia pour arrêter Nadia. Mm-hmm. Et là, il y a le Ghost Rider qui le chope, qui le déboîte. Et en faisant ça, les deux véhicules se rentrent dedans. Le véhicule de Rourke fait genre un roulé-boulet.
t'as Blackout qui est aux prises avec Ghost Rider, qui lui dit mais j'ai plus peur de toi. Et le mec fait ah ouais, ok. Il le regarde dans les yeux et juste il l'explose, quoi. Et ensuite il le jette et après il fait sa petite phrase cool et dit roadkill. Vraiment avec la caméra qui zoome sur son visage et lui qui prend la voix, genre je vais dire un truc cool, quoi.
Et on a le droit à ce moment vraiment cool où le rider chope Rourke et le renvoie en enfer, genre le balance dans le sol.
Il le chope avec ses chaînes, il l'envoie vraiment en orbite au-dessus de la planète, et après il le rabat de toutes ses forces au sol, et donc du coup ça fait un grand trou, ça le renvoie en enfer. Ouais.
C'est super cool. Et malheureusement, là, on apprend que Danny...
Des scènes de boss fight, entre guillemets, qui sont très très courtes.
Ouais. Ouais, bah c'est le ça film, qui est cool, c'est que tu te rends compte que le mec, il est puissant, quoi.
Ghost Rider, il est vénère, c'est tout.
Et en fait, là, on apprend que malheureusement, Danny a décédé dans le car crash, genre. Qu'en gros, il est mort. Mais il semble que pour la première fois, Nick Cage est capable de sentir en fait le rider à l'intérieur de lui, mais même d'une autre manière, c'est qu'en fait il se rend compte que avec le diable qui a été renvoyé en enfer, finalement le diable a plus tellement d'emprise sur l'esprit de vengeance qui s'est calmé en gros et qui est redevenu plus ou moins l'ange qu'il était. Et donc maintenant Ghost Rider est bleu.
Ouais, et puis là, les pouvoirs de l'esprit de la justice et pas de l'esprit de la vengeance.
Voilà, et donc ça lui permet de ressusciter Danny en mode maintenant t'es safe. Et le film se termine sur le Ghost Rider sur sa moto en train de foncer sur l'autoroute, mais cette fois complètement avec des flammes bleues au lieu d'avoir des flammes rouges. Ce qui, pour les gens qui connaissent la physique, veut dire que maintenant, il brûle beaucoup plus qu'avant. Mm. Parce que les flammes bleues sont plus chaudes que les flammes rouges. Et c'était la fin de Ghost Rider 2. Ouais. Alors, on vous a pas fait un spoiler, parce que faut quand même reconnaître que c'est ce genre de film qui est assez convenu. Mais voilà, c'est la fin de Ghost Rider 2, Spirit of Vengeance, l'esprit de la vengeance. Et c'était comment, Julien ?
J'allais rebondir sur le côté Ghost Rider bleu et tout. C'est un des trucs que j'ai bien aimé du film, c'est que il a pas peur de son origine de comics. Le 1 était un peu plus, il essaie d'avoir un truc réaliste, mais voilà, ça l'intéressait moins. Lui, il fait intervenir pas mal de trucs du comics, pas mal de personnages du comics, et il a pas de problème avec ça. Enfin, je sais pas, la façon dont c'est présenté, j'ai trouvé ça, qu'il était pas effrayé de faire appel à ça, et c'était plutôt cool. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Il y a vraiment pas de temps mort en fait. Et ça c'est zéro. On l'a vu, c'est ce qu'on disait. Même les combats de boss entre guillemets, c'est pas ils vont se battre pendant 15 ans et tout. C'est vraiment jouissif du côté de t'as un mec surpuissant et t'as vraiment le truc de il va le tuer avec une fatalité de Mortal Kombat quoi.
Il
va les tuer avec un move cool et puis on passe au suivant et puis voilà. Nous, ce qu'on veut voir, vu que c'est Ghost Rider, on veut pas le voir galérer, machin et tout. On veut le voir faire des moves cool.
Un des moments que j'aime le plus dans ce film, là, c'est au moment où ils sont en train de se battre dans la carrière, là, où t'as un mec avec genre un Uzi qui lui tire dans la bouche. Et genre, tu vois qu'il avale les balles. D'ailleurs, il fait des mouvements de tête. J'étais genre, putain, nickel, j'ai à fond, quoi. Et après, il lui recrache les balles dans la tête, quoi. Enfin, t'es juste genre, man, c'est trop bien. je sais que c'est cool, edgy, genre,
c'est pas edgy, jeune, machin,
mais ça marche. Ça marche, quoi. C'est pas edgy pour être edgy, c'est juste genre, c'est cool.
C'est
quoi.
Ce que je pensais que ça c'est pouvait cool. être. Et en fait, non, pas du tout. Ouais, il y a aucun moment où il essaie d'être edgy, il essaie juste d'être cool. Et là, c'est bien. Parce que l'inverse, ça m'aurait saoulé. De toute façon, on en a pas parlé El Driver, hein. D'ailleurs, voilà, un autre truc.
Oui, bah, c'est exactement ça en fait. Ghost Rider 2 est le film que je pense El Rider voulait être. Mm.
El Driver, du coup. El Rider, c'est vraiment trop proche après.
El Driver, ce que... Alors, c'est quelque chose que je trouve super drôle parce que je trouve que El Driver a peut-être genre une meilleure. Peut-être une petite meilleure cinématographie. En fait, il fait moins film de série B. Je veux dire, il fait moins film de série B dans son ensemble, alors que c'est clairement un film de série genre W au moins. Ouais. Et Ghost Rider fait plus film de série B, alors que genre, pour moi, il est genre. Ah, si cool ce film là.
Bah, il est mieux dosé, je trouve. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment pas un truc qu'on j'aurais pu penser pour dire de ce film, quoi. Qu'il allait pas trop dans l'excès et tout. Je me dis putain, en fait, non, je trouve qu'il dose bien, ouais. Et c'est agréable, voilà. Alors, bien sûr, il y a des facilités scénaristiques. C'est ce qu'on disait, le côté, on sait toujours où les prochains ennemis ils sont et on montre pas comment on y va, on s'en fout. Voilà, et scène suivante, ils y sont et puis il y a une baston et puis c'est cool, quoi. Mais il fait pas ça, le film fait pas ça, enfin. Tu peux regretter la facilité pour le délire de réalisme, mais au final, le film sait ce qu'il est, il sait ce qu'il veut être, et il décide de mettre tout en œuvre pour être ce qu'il veut être, quoi. Je veux dire, si il devait avoir des moments chiants parce qu'il essaie d'être réaliste et d'expliquer pourquoi ceci et pourquoi cela, et il aurait peut-être été un meilleur film, un film plus mieux écrit, machin, et ce que tu veux. Mais ça aurait été un moins bon film.
Moins cool, quoi.
Moins ouais, voilà. Enfin, voilà, Ghost Rider, quoi.
Non, puis, le film est écrit par David S. Goyer, qui a quand même écrit Blade 1 et 2. Bon, aussi, il a aussi écrit le 3, puis Man of Steel, hein, tu sais. Mais bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, lui, comme tu disais, voilà, il n'a pas peur de Lynn dans le comics, puis il s'en fout, quoi. Et qui a une bonne idée de comment adapter quelque chose. Et il faut reconnaître que, ouais, voilà. Ce film-là, en plus, ce que j'aime, c'est que bon, c'est complètement à part, quoi. C'est en Roumanie, c'est genre, c'est ils sont permis de faire leur propre truc. Quand t'arrives au moment cool, parce que c'est un peu ce que tu disais tantôt. Je redis plus ou moins la même chose, mais c'est vrai que à chaque fois qu'il y avait une scène qui arrivait où j'étais genre. Je m'en rappelle, tu sais, pas je me rappelle de la scène comment elle se passe, mais je me rappelle que cette scène-là existe, tu sais, la scène par exemple de la carrière. J'étais genre, ah, ok, est-ce qu'on arrive au moment où ça commence à devenir genre kitsch et tout pourri, tu sais, parce que je suis genre, ok, est-ce qu'on va passer dans le, est-ce qu'on va, tu sais, genre, jump the shark et on va passer dans le côté vraiment naze. La scène arrive, puis t'es juste genre, non, je suis désolé, quand il rentre dans son, exactement le modèle, c'est un bagger 288 qui était le plus gros véhicule terrestre dans le monde de 1978 à 1995, quand il rentre là-dedans et qu'il le transforme en genre en truc enflammé qui a de la gueule, ça a de la gueule, puis c'est tout, quoi. Ça va pas plus.
En fait, j'ai l'impression qu'ils décident d'arrêter leur scène quand ils ont plus d'idées cool à mettre.
Oui, exactement, ils savent
qu'on c'est ça qui ce qui va définir quand est-ce qu'ils arrêtent une scène et quand est-ce qu'ils passent à la suivante, ça va être ça. Et en soi, oui. Après, voilà.
Exactement.
Donc, il y a des défauts quand même. Hein, mais en tout cas, les défauts, c'est des choses qui sont... qui, de toute façon, se mettraient dans le chemin de ce que vous avez envie de faire, quoi.
Oui.
Voilà. Après, au niveau des... Voilà, les acteurs, ça... Tout le monde surjoue, c'est
formidable.
Mais je sais pas, ça fait plaisir de voir Idriss Elba qui cabotine. Mais Sierra Hinds, c'est incroyable comme il surjoue, mais c'est à chaque scène. Hein. En fait, c'est vraiment chaque scène où ses expressions du visage, il en fait deux fois trop. Et au final, Nicolas Cage, il arrive à se faire voler la vedette, quoi. Mais même lui, voilà, tu sens qu'ils se font tous plaisir quand même.
Ah, ils y sont allés, mais à fond. Enfin, tu dis que Nicolas Cage fait voler la vedette, mais enfin, pas de beaucoup, hein.
Non.
Parce que c'est une powerhouse de surjeu, ce mec-là. Il est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas un moment où il est à l'écran que je regrette. C'est genre, que ce soit dans la forme Johnny Blaze ou dans la forme Ghost Rider, c'est du pur bonheur. Un truc qu'on n'a pas parlé aussi, mais c'est aussi le sound design, et je le trouve absolument incroyable, parce qu'il y a ces moments où, quand le Ghost Rider arrive, on dirait que c'est genre un monstre, t'entends des bruits de monstres qui arrivent, et tout le monde est en train de stresser, machin, et enfin, je sais pas s'il joue de... Enfin, son jeu est juste tellement bon, là. Enfin... transition non là-dessus, hein. De toute façon, c'est là, on est là pour ça. Le jeu de Nick Cage, man, de la première seconde, parce que la première seconde du film, c'est un écran noir et c'est Nick Cage qui parle. Tu sais que t'es parti pour genre le meilleur moment de ta vie, parce que, enfin, il explique un peu c'est qui Johnny Blaze, et en plus, comment il l'explique, dans sa voix, il y a vraiment le côté genre « Ouais, j'étais trop cool, je faisais des backflips avec ma moto, machin. »
Oui, il y a ça aussi qui vient mettre de l'eau au moulin de « Ils ont pas honte, ils prennent à fond l'héritage comics. » Ouais, ces petites scènes justement dessinées, je trouve ça marche super bien, quoi.
Mais, ouais, grave, et je trouve qu'en général, quand ça arrive, la voix off par-dessus est toujours très bien amenée. Que ce soit Idris Elba qui explique l'héritage du Ghost Rider, ou alors Nicolas Cage qui explique son propre héritage, là, c'est toujours une... Enfin, ça apporte au film, au lieu d'en enlever. C'est pas genre juste de l'exposition pour être de l'exposition. On te montre aussi quel genre de personnage est la personne qui parle. Quand Moreau explique ça, tu te rends compte que Moreau, c'est quand même une personne qui, malgré le fait que ce soit un alcoolique et un machin, c'est quand même une personne qui a beaucoup de révérence pour ce qui est céleste. Et justement, dans cette manière d'expliquer, quand il parle, sa voix, elle est quand même, elle exprime tout ça. Et enfin, j'ai trouvé ça super cool, en fait. C'était pas juste, on va balancer de l'exposition pour balancer de l'exposition, quoi. Même si c'est un peu à ça que ça sert, quoi, au final. Mais c'était mieux fait que certains films, quoi.
Et ouais, du coup, sur la notation de Nicolas Cage, je trouve que c'est pas évident à noter.
Écoute, c'est... Ouais.
Bah, je parle pas de la folie, je parlais plutôt de la performance. Mais on va d'abord parler de la folie. C'est pas mal.
Alors écoute, tu vois, on a mis un 8 à Bad Lieutenant.
Ouais, je suis aussi là.
Pour moi, c'est au moins à ce niveau-là, voire peut-être même un poil plus. Bah, qu'est-ce qu'on a
Face Off, on a mis 9. Lieutenant.
Ah, c'est entre les deux.
Ouais. On a mis 8,5 à Peggy Sue s'est marié. Bon.
Ouais, c'est pas le même genre de délire, mais je pense que oui, c'est poussé au moins au même niveau.
Mais ouais, 8,5, ça me paraît bien, entre 8 et 9 en tout cas.
8,5, ouais. Ouais, là on est haut, là.
Et c'est sur la partie performance où c'est pas évident, parce qu'on a l'impression que le mec joue mal, mais que c'est ce qu'on lui a demandé, donc...
C'est très cohérent avec tout le reste, en fait. Moi, il m'a jamais perdu, c'est ça que je veux dire, donc c'est pour ça que... C'est sûr que c'est au moins un 5, parce qu'il m'a jamais perdu. Je me suis jamais fait ressortir du film par rapport à ce que lui, il a fait. Mm. Alors après... parce que c'est aussi difficile, malheureusement, à dire, c'est que 85% du temps, c'est beaucoup de folie. Donc, comment est-ce qu'on introduit la folie dans sa performance ?
Et en fait, surtout, il a beaucoup moins de temps d'apparition. En pourcentage d'apparition entre lui et le Ghost Rider, c'est beaucoup plus équilibré que dans le 1, où en fait, y avait beaucoup de Johnny Blaze, quoi.
Oui, non, c'est vrai.
Et du coup, il a moins de temps que ça, mais tu vois, par exemple, il y a le moment où il discute avec Danny et tout, il n'est pas dans la folie du tout. Il est juste... et ça fonctionne, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai envie de lui mettre une bonne note, quand même.
Non, j'ai envie de lui mettre une bonne note, mais ce que je disais, c'est que je le mettrais littéralement pas en dessous de 5, parce que pour moi, 5, c'est est-ce que il a été consistant et j'ai pas perdu mon fil de performance.
Moi, je mettrais bien 7, et tu vois.
Qu'est-ce qu'on a comme 7? National Treasure?
Ouais, en fait, surtout à 7,5, on avait mis Lord of War, par exemple. Et j'ai l'impression que ça serait compliqué de le mettre au même niveau. Et en même temps, j'ai pas envie de mettre moins de 7. Du coup, ça me semblait pas mal. On a mis Drive Angry, on a mis à 7, tu vois, par exemple. Season of the Witch, on a mis à 7. prédiction, on a mis à 7. Après, on peut mettre un peu. Oh, on pourrait mettre 7,5. Hein.
Ouais, parce que mon problème, c'est que tous 7, ces films-là sont. C'est quand même drôle parce que c'est quand même des mauvais films, là, tu vois. Prédiction, Drive Angry. Bon, Season of the Witch is ok. Mais tu sais, c'est quand même des mauvais films sur lesquels on lui a quand même donné des notes convenables. J'ai envie de faire la distinction.
Ouais,
j'ai envie de faire la distinction. Et je serais prêt à aller. Parce que 7,5,
c'est bien.
C'est parce que c'est clairement pas le même rôle que Lord of War, tout à fait. Et, mais
c'est très différent,
ce
mais
là,
c'est
il
le
est
même...
très cohérent.
Ouais, c'est le même niveau de voilà, j'ai fait le taf.
Ouais, exact.
J'ai fait ce qu'on m'a demandé, quoi.
Voilà, et ben nous aussi, on a fait ce qu'on nous a demandé.
Enfin, ce qu'on nous a demandé.
On
s'est demandé à nous-mêmes. Personne ne nous force. Justement, c'est ça qui est terrible. Et bon, personne ne nous forcera non plus. Dans deux semaines, parler de 12 heures, donc Stolen de Simon West. on retombe dans des films un peu moins grand public.
Ouais.
Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Ça peut être une bonne surprise quand même. Pourquoi pas? En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc sur Twitter @CitizenCatchPod, sur Facebook et Instagram CitizenCatchPodcast. Vous pouvez vous abonner justement au podcast sur les différentes plateformes. Donc, on est à la fois sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. On est aussi dans toutes les applications type Podcast Addict ou autres en cherchant via l'annuaire. Et puis sinon, voilà, vous avez le flux RSS hein, si jamais vous avez besoin. Pour être encore plus sûr de nous suivre. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Voilà, dans deux semaines, on parle de 12 heures. Voilà.
Ben voilà. À dans deux semaines, tout le monde.
À dans deux semaines, ciao.